When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
53e section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 53e section. Philomène lut deux fois cette lettre, dont le sens général se grava dans son cœur. Elle pénétra soudain dans la vie antérieure d'Albert, car sa vive intelligence lui en expliqua les détails et lui en fit parcourir l'étendue. En rapprochant cette confidence de la nouvelle publiée dans la revue, elle comprit alors Albert tout entier. Naturellement, elle s'exagéra les proportions déjà fortes de cette belle âme, de cette volonté puissante. Et son amour pour Albert devint alors une passion dont la violence s'accrut de toute la force de sa jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l'énergie secrète de son caractère. Aimer est déjà chez une jeune personne un effet de la loi naturelle, mais quand son besoin d'affection se porte sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes cœurs. Aussi mademoiselle de Watteville arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse. La baronne était très contente de sa fille qui, sous l'empire de ses profondes préoccupations, ne lui résistait plus, paraissait appliquée à ses divers ouvrages de femme et réalisait son beau idéal de la fille soumise. L'avocat plaidait alors deux ou trois fois par semaine. Quoique accablé d'affaires, il suffisait au palais, au contentieux du commerce, à la revue, et restait dans un profond mystère en comprenant que plus son influence serait sourde et cachée, plus réelle elle serait. Mais il ne négligeait aucun moyen de succès, en étudiant la liste des électeurs byzantins et recherchant leurs intérêts, leurs caractères, leurs diverses amitiés, leurs antipathies. Un cardinal voulant être pape s'est-il jamais donné tant de soins? Un soir, Mariette, en venant habiller Philomène pour une soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet abus de confiance, une lettre dont la suscription fit frémir et pâlir et rougir mademoiselle de Watteville. À Madame la Duchesse d'Argaiolo, née Princesse Soderini, à Belgirate, Lac Majeur, Italie. À ses yeux, cette adresse brilla comme du briller Manet, Tessel, Farès aux yeux de Balthazar. Après avoir caché la lettre, elle descendit pour aller avec sa mère chez madame de Chavoncourt. Pendant cette soirée, Philomène fut assaillie de remords et de scrupules. Elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le secret de la lettre d'Albert à Léopold. Elle s'était demandé plusieurs fois si, sachant ce crime, infâme en ce qu'il est nécessairement impuni, le noble Albert l'estimerait. Sa conscience lui répondait non avec énergie. Elle avait expié sa faute en s'imposant des pénitences. Elle jeûnait, elle se mortifiait en restant à genoux les bras en croix et disant des prières pendant quelques heures. Elle avait obligé Mariette à ses actes de repentir. L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa passion et la rendait d'autant plus dangereuse. Lirai-je? Ne lirai-je pas cette lettre? Se disait-elle en écoutant les petites de Chavoncourt. L'une avait 16 et l'autre 17 ans et demi. Philomène regardait ses deux amies comme des petites filles parce qu'elle n'aimait pas en secret. « Si je la lis, se disait-elle après avoir flotté pendant une heure entre non et oui, ce sera bien certainement la dernière. puisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il écrivait à son ami, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui dit à elle? Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d'amour? Oh, Albert, ne suis-je pas ta femme? » Quand Philomène fut au lit, elle ouvrit cette lettre datée de jour en jour de manière à offrir à la duchesse une fidèle image de la vie et des sentiments d'Albert. 25. Ma chère âme, tout va bien. Aux conquêtes que j'ai faites, je viens d'en ajouter une précieuse. J'ai rendu service à l'un des personnages les plus influents aux élections. Comme les critiques qui font les réputations sans jamais pouvoir s'en faire une, il fait les députés sans pouvoir jamais le devenir. Le brave homme a voulu me témoigner sa reconnaissance à bon marché, presque sans bourse déliée, en me disant « Voulez-vous aller à la Chambre ? Je puis vous faire nommer député. » Si je me résolvais à entrer dans la carrière politique, lui ai-je répondu très hypocritement, ce serait pour me vouer à la comté que j'aime et où je suis apprécié. « Eh bien, nous vous déciderons, et nous aurons par vous une influence à la Chambre, car vous y brillerez. » Ainsi, mon ange aimé, quoi que tu dises, ma persistance aura sa couronne. Dans peu, je parlerai du haut de la tribune française à mon pays, à l'Europe. Mon nom te sera jeté par les 100 voix de la presse française. Oui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a vieilli encore. Mais comme Sixte Quint, je serai jeune le lendemain de mon élection. J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma sphère. Ne serons-nous pas alors sur la même ligne? Le comte Savaron de Savarus, ambassadeur, je ne sais où, pourra certes épouser une princesse Soderini, la veuve du duc d'Argaiolo. Le triomphe rajeunit les hommes conservés par d'incessantes luttes. Ô ma vie! Avec quelle joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cabinet devant ton cher portrait, à qui j'ai dit ses progrès avant de t'écrire. Oui, mais vois à moi, celle du vicaire général, celle des gens que j'obligerai, et celle de ce client assure déjà mon élection. 26. Nous sommes entrés dans la 12e année depuis l'heureuse soirée où, par un regard, la belle duchesse a ratifié les promesses de la proscrite Francesca. Ah, chère, tu as 32 ans, et moi j'en ai 35. Le cher duc en a 77, c'est-à-dire à lui seul 10 ans de plus que nous deux, et il continue à se bien porter. Fais-lui mes compliments, et dis-lui que je lui donne encore 3 ans. J'ai besoin de ce temps pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd'hui. Voilà l'effet d'une espérance. Tristesse ou gaieté, tout me vient de toi. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois, où ma vie s'est unie avec la tienne comme la terre à la lumière. Qual pianto que ces 11 années, car nous voici au 26 décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. Voici 11 ans que je crie et que tu rayonnes. 27. Non, cher, ne va pas à Milan, reste à Belgirate. Milan m'épouvante. Je n'aime ni ces affreuses habitudes milanaises de causer tous les soirs à la Scala avec une douzaine de personnes, parmi lesquelles il est difficile qu'on ne te dise pas quelque douceur. Pour moi, la solitude est comme ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte vit éternellement dans son immuable beauté. L'âme et le corps d'une femme restent ainsi purs et dans la forme de leur jeunesse. Est-ce ces Tedeschi que tu regrettes? 28. Ta statue ne se finira donc point. Je voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en miniature, de toutes les façons, pour tromper mon impatience. J'attends toujours la vue de Belgirate, au midi, et celle de la galerie. Voilà les seules qui me manquent. Je suis tellement occupé que je ne puis aujourd'hui te rien dire qu'un rien. Mais ce rien est tout. N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le monde? Ce rien, c'est un mot, le mot de Dieu. Je t'aime. 30. Ah, je reçois ton journal. Merci de ton exactitude. Tu as donc éprouvé bien du plaisir à voir les détails de notre première connaissance ainsi traduits. Hélas, tout en les voilant, j'avais grand peur de t'offenser. Nous n'avions point de nouvelles, et une revue sans nouvelles, c'est une belle sans cheveux. Peu trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai pris la seule poésie qui fut dans mon âme, la seule aventure qui fut dans mes souvenirs. Je l'ai mise au temps où elle pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de penser à toi tout en écrivant le seul morceau littéraire qui sortira de mon cœur. Je ne puis pas dire de ma plume. La transformation du farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire? Tu me demandes comme va la santé, mais bien mieux qu'à Paris. Quoique je travaille énormément, la tranquillité des milieux a de l'influence sur l'âme. Ce qui fatigue et vieillit, cher ange, c'est ces angoisses de vanité trompée, ces irritations perpétuelles de la vie parisienne, ces luttes d'ambition rivale. Le calme est balsamique. Si tu savais quel plaisir me fait ta lettre, cette bonne longue lettre où tu me dis si bien les moindres accidents de ta vie. Non, vous ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel point un véritable amant est intéressé par ces riens. L'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à voir. Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise? Si ton front sublime se raye, si nos auteurs te distrayent, si les chants de Victor Hugo t'exaltent, je lis les livres que tu lis. Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le lac qui ne m'ait attendri. Ta lettre est belle, suave comme ton âme, ô fleur céleste et constamment adorée. Aurais-je pu vivre sans ces chères lettres qui depuis 11 ans m'ont soutenu dans ma voie difficile, comme une clarté, comme un parfum, comme un chant régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie? Ne manque pas, si tu savais quelle est mon angoisse la veille du jour où je les reçois, et ce qu'un retard d'un jour me cause de douleur. Est-elle malade? Est-ce lui? Je suis entre l'enfer et le paradis. Je deviens fou. Cara diva. Cultive toujours la musique, exerce ta voix, étudie. Je suis ravi de cette conformité de travaux et d'heures qui fait que, séparés par les Alpes, nous vivons exactement de la même manière. Cette pensée me charme et me donne bien du courage. Quand j'ai plaidé pour la première fois, je ne t'ai pas encore dit cela. Je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. Si je vais à la chambre, oh, tu viendras à Paris pour assister à mon début. 30 au soir. Mon Dieu, combien je t'aime. Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances. Un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie. Voici 3 ans que je ne t'ai vu, et à l'idée d'aller à Belgirate, mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter. Te voir, entendre cette voix enfantine et caressante, embrasser par les yeux ce teint d'ivoire si éclatant aux lumières et sous lequel on devine ta noble pensée, admirer tes doigts jouant avec les touches, recevoir toute ton âme dans un regard et ton cœur dans l'accent d'un « Oime » ou d'un « Alberto », nous promener devant tes orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage, voilà la vie. Oh, quelle niaiserie que de courir après le pouvoir, un nom, la fortune. Mais tout est à Belgirate. Là est la poésie, là est la gloire. J'aurais dû me faire ton intendant, ou, comme ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le proposer, y vivre en cavalier servant, ce que notre ardente passion ne nous a pas permis d'accepter. Est-ce un Italien que le duc? Mais ta vie que c'est le père éternel. Adieu, mon ange, tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté tombée comme un rayon du flambeau de l'espérance, qui jusqu'alors me paraissait un feu follet. Comme il aime, s'écria Philomène en laissant tomber cette lettre qui lui sembla lourde à tenir. Après 11 ans, écrire ainsi. Mariette, dit Philomène à la femme de chambre, le lendemain matin, allez jeter cette lettre à la poste. Dites à Jérôme que je sais tout ce que je voulais savoir et qu'il serve fidèlement Monsieur Albert. Nous nous confesserons de ses péchés sans dire à qui les lettres appartenaient, ni où elles allaient. J'ai eu tort. C'est moi qui suis la seule coupable. Mademoiselle a pleuré, dit Mariette. Oui, je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçût. Donnez-moi de l'eau bien froide. Philomène, au milieu des orages de sa passion, écoutait souvent la voix de sa conscience. Touchée par cette admirable fidélité de deux cœurs, elle venait de faire ses prières et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à respecter le bonheur de deux êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort, attendant tout de Dieu, sans se permettre d'action ni de souhait criminel. Elle se sentit meilleure, elle éprouva quelque satisfaction intérieure après avoir pris cette résolution inspirée par la droiture naturelle au jeune âge. Elle y fut encouragée par une réflexion de jeune fille. Elle s'immolait pour lui. « Elle ne s'est pas aimée, pensait-elle. Ah, si c'était moi, je sacrifierais tout à un homme qui m'aimerait ainsi. Être aimé? Quand et par qui le serais-je, moi? Ce petit monsieur de Soulas n'aime que ma fortune. Si j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas attention à moi. Philomène, ma petite, à quoi penses-tu donc? Tu vas au-delà de l'arrêt, dit la baronne à sa fille qui faisait des pantoufles en tapisserie pour le baron. Philomène passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets tumultueux. Mais au printemps, au mois d'avril, époque à laquelle elle atteignit à ses 18 ans, elle se disait parfois qu'il serait bien de l'emporter sur une duchesse d'Argaiolo. Dans le silence et la solitude, la perspective de cette lutte avait rallumé sa passion et ses mauvaises pensées. Elle développait par avance sa témérité romanesque en faisant plan sur plan. Quoique de tels caractères soient exceptionnels, il existe malheureusement beaucoup trop de Philomène, et cette histoire contient une leçon qui doit leur servir d'exemple. Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait sourdement fait un progrès immense dans Besançon. Sûr de son succès, il attendait avec impatience la dissolution de la Chambre. Il avait conquis parmi les hommes du juste milieu l'un des faiseurs de Besançon, un riche entrepreneur qui disposait d'une grande influence. Fin de la 53e section. Cinquante-quatrième section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 54e section. Les Romains se sont partout donné des peines énormes. Ils ont dépensé des sommes immenses pour avoir d'excellentes eaux à discrétion dans toutes les villes de leur empire. À Besançon, ils buvaient les eaux d'Arcier, montagne située à une assez grande distance de Besançon. Besançon est une ville assise dans l'intérieur d'un fer à cheval décrit par le Doubs. Ainsi, rétablir l'aqueduc des Romains pour boire l'eau que buvaient les Romains dans une ville arrosée par le Doubs est une de ces niaiseries qui ne prennent que dans une province où règne la gravité la plus exemplaire. Si cette fantaisie se logeait au cœur des Byzantins, elle devait obliger à faire de grandes dépenses, et ces dépenses allaient profiter à l'homme influent. Albert Savaron de Savarus décida que le Doubs n'était bon qu'à couler sous des ponts suspendus et qu'il n'y avait de potable que l'eau d'Arcier. Des articles parurent dans la Revue de l'Est qui ne furent que l'expression des idées du commerce byzantin. Les nobles comme les bourgeois, le juste milieu comme les légitimistes, le gouvernement comme l'opposition, enfin tout le monde se trouva d'accord pour vouloir boire l'eau des Romains et jouir d'un pont suspendu. La question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du jour dans Besançon. À Besançon, comme pour les deux chemins de fer de Versailles, comme pour des abus subsistants, il y eut des intérêts cachés qui donnèrent une vitalité puissante à cette idée. Les gens raisonnables, en petit nombre d'ailleurs, qui s'opposaient à ce projet, furent traités de ganaches. On ne s'occupait que des deux plans de l'avocat Savaron. Après 18 mois de travaux souterrains, cet ambitieux était donc arrivé, dans la ville la plus immobile de France et la plus réfractaire à l'étranger, à la remuer profondément, à y faire, selon une expression vulgaire, la pluie et le beau temps, à y exercer une influence positive, sans être sorti de chez lui. Il avait résolu le singulier problème d'être puissant quelque part sans popularité. Pendant cet hiver, il gagna 7 procès pour des ecclésiastiques de Besançon. Aussi, par moments respirait-il par avance l'air de la Chambre. Son cœur se gonflait à la pensée de son futur triomphe. Cet immense désir, qui lui faisait mettre en scène tant d'intérêts, inventer tant de ressorts, absorbait les dernières forces de son âme démesurément tendue. On vantait son désintéressement. Il acceptait sans observation les honoraires de ses clients. Mais ce désintéressement était de l'usure morale. Il attendait un prix pour lui plus considérable que tout l'or du monde. Il avait acheté, soi-disant, pour rendre service à un négociant embarrassé dans ses affaires, au mois d'octobre 1834, et avec les fonds des Léopold Hannequin, une maison qui lui donnait le sens d'éligibilité. Ce placement avantageux n'eut pas l'air d'avoir été cherché ni désiré. « Vous êtes un homme bien réellement remarquable, » dit à Savarus l'abbé de Grancey, qui naturellement observait et devinait l'avocat. Le vicaire général était venu lui présenter un chanoine qui réclamait les conseils de l'avocat. « Vous êtes, lui dit-il, un prêtre qui n'est pas dans son chemin. » Un mot qui frappa Savarus. De son côté, Philomène avait décidé, dans sa forte tête de frêle jeune fille, d'amener M. de Savarus dans le salon et de l'introduire dans la société de l'hôtel de Rupt. Elle bornait encore ses désirs à voir Albert et à l'entendre. Elle avait transigé, pour ainsi dire, et les transactions ne sont souvent que des trêves. Les Rouxey, terres patrimoniales des Watteville, valaient 10 000 francs de rente nette, mais en d'autres mains, elle eût rapporté bien davantage. L'insouciance du baron, dont la femme devait avoir et eut 40 000 francs de revenus, laissait les Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de maître Jacques, un vieux domestique de la maison Watteville, appelé Modinier. Néanmoins, quand le baron et la baronne éprouvaient le désir d'aller à la campagne, ils allaient aux Rouxey, dont la situation est très pittoresque. Le château, le parc, tout a d'ailleurs été créé par le fameux Watteville, dont la vieillesse active se passionna pour ce lieu magnifique. Entre deux petites alpes, deux pitons dont le sommet est nu et qui s'appellent le Grand et le Petit Rouxey, au milieu d'une gorge par où les eaux de ces montagnes terminées par la dent de Villars tombent et vont se joindre aux délicieuses sources du Doubs, Watteville imagina de construire un barrage énorme en y laissant deux déversoirs pour le trop-plein des eaux. En amont de son barrage, il obtint un charmant lac et en aval deux cascades, deux ravissantes rivières avec lesquelles il arrosa la sèche et inculte vallée que dévastait jadis le torrent des Rouxey. Ce lac, cette vallée, ces deux montagnes, il les enferma par une enceinte et se bâtit une chartreuse sur le barrage auquel il donna 3 arpents de largeur, en y faisant apporter toutes les terres qu'il fallut enlever pour creuser le double lit de ces rivières factices et les canaux d'irrigation. Quand le baron de Watteville se procura le lac au-dessus de son barrage, il était propriétaire des deux Rouxey, mais non de la vallée supérieure, qu'il inondait ainsi, par laquelle on passait en tout temps et qui se termine en fer à cheval au pied de la dent de Villars. Mais ce sauvage vieillard imprimait une si grande terreur que, pendant toute sa vie, il n'y eut aucune réclamation de la part des habitants des Rissé, petit village situé sur le revers de la dent de Villars. Quand le baron mourut, il avait réuni les pentes des deux Rouxey au pied de la dent de Villars par une forte muraille, afin de ne pas inonder les deux vallées qui débouchaient dans la gorge des Rouxey, à droite et à gauche du pic de Villars. Il mourut ayant conquis ainsi la dent de Villars. Ses héritiers se firent les protecteurs du village des Rissé et maintinrent ainsi l'usurpation. Le vieux meurtrier, le vieux renégat, le vieil abbé Watteville avait fini sa carrière en plantant des arbres, en construisant une superbe route prise sur le flanc d'un des deux Rouxey, et qui rejoignait le grand chemin. De ce parc, de cette habitation dépendaient des domaines fort mal cultivés, des chalets dans les deux montagnes et des bois inexploités. C'était sauvage et solitaire, sous la garde de la nature, abandonné au hasard de la végétation, mais plein d'accidents sublimes. Vous pouvez vous figurer maintenant les Rouxey. Il est fort inutile d'embarrasser cette histoire en racontant les prodigieux efforts et les ruses empreintes de génie par lesquelles Philomène arriva, sans le laisser soupçonner, à son but. Qu'il suffise de dire qu'elle obéissait à sa mère en quittant Besançon au mois de mai 1835, dans une vieille berline attelée de 2 bons gros chevaux loués et allant avec son père aux Rouxey. L'amour explique tout aux jeunes filles. Quand, en se levant le lendemain de son arrivée au Rouxey, Philomène aperçut de la fenêtre de sa chambre la belle nappe d'eau sur laquelle s'élevaient de ces vapeurs exhalées comme des fumées et qui s'engageaient dans les sapins et dans les mélèzes en rampant le long des deux pics pour gagner les sommets, elle laissa échapper un cri d'admiration. « Ils se sont aimés devant des lacs. Elle est sur un lac. Décidément, un lac est plein d'amour. » Un lac alimenté par des neiges à des couleurs d'opale et une transparence qui eût fait un vaste diamant. Mais quand il est serré comme celui des Rouxey entre 2 blocs de granit vêtus de sapin, qu'il y règne un silence de savane ou de steppe, il arrache à tout le monde le cri que venait de jeter Philomène. « On doit cela, lui dit son père, au fameux Watteville. « Ma foi, dit la jeune fille, il a voulu se faire pardonner ses fautes. » « Montons dans la barque et allons jusqu'au bout, dit-elle, nous gagnerons de l'appétit pour le déjeuner. » Le baron manda 2 jeunes jardiniers qui savaient ramer et prit avec lui son premier ministre Modinier. Le lac avait 6 arpents de largeur, quelquefois 10 ou 12, et 400 arpents de long. Philomène eut bientôt atteint le fond qui se termine par la dent de Villars, la Jungfrau de cette petite Suisse. « Nous y voilà, monsieur le baron, » dit Modinier, en faisant signe aux deux jardiniers d'attacher la barque. « Voulez-vous venir voir ?»« Voir quoi ?» demanda Philomène. « Oh, rien, » dit le baron. « Mais tu es une fille discrète. Nous avons des secrets ensemble. Je puis te dire ce qui me chiffonne l'esprit. » Il s'est ému depuis 1830 des difficultés entre la commune des Rissés et moi, précisément à cause de la dent de Villars, et je voudrais les accommoder sans que ta mère le sache, car elle est entière, elle est capable de jeter feu et flamme, surtout en apprenant que le maire des Rissés, un républicain, a inventé cette contestation pour courtiser son peuple. » Philomène eut le courage de déguiser sa joie, afin de mieux agir sur son père. « Quelle contestation ? » fit-elle. « Mademoiselle, les gens des Rissés, » dit Modinier, « ont depuis longtemps droit de pâture et d'affouage dans leur côté de la dent de Villars. Or, monsieur Chantonny, leur maire depuis 1830, prétend que la dent tout entière appartient à sa commune, et soutient qu'il y a 100 et quelques années on passait sur nos terres. Vous comprenez qu'alors nous ne serions plus chez nous. Puis ce sauvage, on viendrait à dire, ce que disent les anciens des Rissés, que le terrain du lac a été pris par l'abbé de Watteville. C'est la mort des Rouxés, quoi. Hélas, mon enfant, entre nous c'est vrai, dit naïvement monsieur de Watteville. Cette terre est une usurpation consacrée par le temps. Aussi, pour n'être jamais tourmenté, je voudrais proposer de définir à l'amiable mes limites de ce côté de la dent de Villars, et j'y bâtirai un mur. Si vous cédez devant la République, elle vous dévorera. C'était à vous de menacer les Rissés. C'est ce que je disais hier au soir à monsieur, répondit Modinier. Mais pour abonder dans ce sens, je lui proposais de venir voir s'il n'y avait pas, de ce côté de la dent ou de l'autre, à une hauteur quelconque, des traces de clôture. Depuis 100 ans, de part et d'autre, on exploitait la dent de Villars, cette espèce de mur mitoyen entre la commune des Rissés et les Rouxés, qui ne rapportait pas grand-chose, sans en venir à des moyens extrêmes. L'objet en litige, étant couvert de neige 6 mois de l'année, était de nature à refroidir la question. Aussi fallut-il l'ardeur soufflée par la Révolution de 1830 aux défenseurs du peuple pour réveiller cette affaire par laquelle M. Chantonny, maire des Rissés, voulait dramatiser son existence sur la tranquille frontière de Suisse et immortaliser son administration. Chantonny, comme son nom l'indique, était originaire de Neuchâtel. « Mon cher père, » dit Philomène, en rentrant dans la barque, « j'approuve Modinier. Si vous voulez obtenir la mitoyenneté de la dent de Villars, il est nécessaire d'agir avec vigueur, et d'obtenir un jugement qui vous mette à l'abri des entreprises de ce Chantonny. Pourquoi donc auriez-vous peur ? Prenez pour avocat le fameux Savaron. Prenez-le promptement pour que Chantonny ne le charge pas des intérêts de sa commune. Celui qui a gagné la cause du chapitre contre la ville gagnera bien celle des Watteville contre les Rissés. D'ailleurs, dit-elle, les Rouxés seront un jour à moi. Le plus tard possible, je l'espère. Eh bien, ne me laissez pas de procès. J'aime cette terre et je l'habiterai souvent. Je l'augmenterai tant que je pourrai. Sur ses rives, dit-elle en montrant les bases des deux Rouxés, je découperai des corbeilles, j'en ferai des jardins anglais ravissants. Allons à Besançon et ne revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey, monsieur Savaron et ma mère, si elle le veut. C'est alors que vous pourrez prendre un parti. Mais à votre place, je l'aurais déjà pris. Vous vous nommez Watteville, et vous avez peur d'une lutte ? Si vous perdez le procès, tenez, je ne vous dirai pas un mot de reproche. Oh, si tu le prends ainsi, dit le baron, je le veux bien, je verrai l'avocat. D'ailleurs, un procès, mais c'est très amusant. Il jette un intérêt dans la vie. L'on va, l'on vient, l'on se démène. N'aurez-vous pas 1000 démarches à faire pour arriver au juge ? Nous n'avons pas vu l'abbé de Grancey pendant plus de 20 jours, tant il était occupé. Mais il s'agissait de toute l'existence du chapitre, dit monsieur de Watteville. Puis l'amour-propre, la conscience de l'archevêque, tout ce qui fait vivre les prêtres y était engagé. Ce Savaron ne sait pas ce qu'il a fait pour le chapitre. Il l'a sauvé. Écoutez-moi, lui dit-elle à l'oreille. Si vous avez monsieur Savaron pour vous, vous aurez gagné, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous donner un conseil. Vous ne pouvez avoir monsieur Savaron pour vous que par monsieur de Grancey. Si vous m'en croyez, parlons ensemble à ce cher abbé, sans que ma mère soit de la conférence, car je sais un moyen de le décider à nous amener l'avocat Savaron.
Il sera bien difficile de n'en pas parler à ta mère.
L'abbé de Grancey s'en chargera plus tard, mais décidez-vous à promettre votre voix à l'avocat Savaron aux prochaines élections et vous verrez. Aller aux élections, prêter serment, s'écria le baron de Watteville. Bah, dit-elle, et que dira ta mère? Elle vous ordonnera peut-être d'y aller, répondit Philomène qui savait par la lettre d'Albert à Léopold les engagements du vicaire général. 4 jours après, l'abbé de Grancey se glissait un matin de très bonne heure chez Albert de Savarus, après l'avoir prévenu la veille de sa visite. Le vieux prêtre venait conquérir le grand avocat à la maison Watteville, démarche qui révèle le tact et la finesse que Philomène avait souterrainement déployés. « Que puis-je pour vous, monsieur le vicaire général ?» dit Savarus. L'abbé, qui dégoisa l'affaire avec une admirable bonhomie, fut écouté froidement par Albert. « Monsieur l'abbé, répondit-il, il m'est impossible de me charger des intérêts de la maison Watteville, et vous allez comprendre pourquoi. Mon rôle ici consiste à garder la plus exacte neutralité. Je ne veux pas prendre couleur et dois rester une énigme jusqu'à la veille de mon élection. Or, plaider pour les Watteville, ce ne serait rien à Paris. Mais ici, ici où tout se commente, je serai pour tout le monde l'homme de votre faubourg Saint-Germain. Et croyez-vous, dit l'abbé, que vous pourrez être inconnu quand, au jour des élections, les candidats s'attaqueront? Mais alors, on saura que vous vous nommez Savaron de Savarus, que vous avez été maître des requêtes, que vous êtes un homme de la Restauration. Au jour des élections, dit Savarus, je serai tout ce qu'il faudra que je sois. Je compte parler dans les réunions préparatoires. Si monsieur de Watteville et son parti vous appuyaient, vous auriez 100 voix compactes et un peu plus sûres que celles sur lesquelles vous comptez. On peut toujours semer la division entre les intérêts, on ne sépare point les convictions. Eh diable, reprit Savarus, je vous aime, et puis faire beaucoup pour vous, mon père. Peut-être y a-t-il des accommodements avec le diable. Quel que soit le procès de monsieur de Watteville, on peut, en prenant Girardet et le guidant, traîner la procédure jusqu'après les élections. Je ne me chargerai de plaider que le lendemain de mon élection. Faites une chose, dit l'abbé, venez à l'hôtel de Rupt, il s'y trouve une petite personne de 18 ans qui doit avoir un jour 100 000 livres de rente, et vous paraîtrez lui faire la cour. Ah, cette jeune fille que je vois souvent sur ce kiosque. Oui, mademoiselle Philomène, reprit l'abbé de Grancey, vous êtes ambitieux, si vous lui plaisez, vous seriez tout ce qu'un ambitieux veut être, ministre. On est toujours ministre quand à une fortune de 100 000 livres de rente on joint vos étonnantes capacités. Monsieur l'abbé, dit vivement l'Albert, mademoiselle de Watteville aurait encore 3 fois plus de fortune et m'adorerait qu'il me serait impossible de l'épouser. Vous seriez marié? Fit l'abbé de Grancey. Non pas à l'église, non pas à la mairie, dit Savarus, mais moralement. C'est pire quand on y tient autant que vous paraissez y tenir, répondit l'abbé. Tout ce qui n'est pas fait peut se défaire. N'essayez pas plus votre fortune et vos plans sur un vouloir de femme, qu'un homme sage ne compte sur les souliers d'un mort pour se mettre en route. « Laissons mademoiselle de Watteville, dit gravement Albert, et convenons de nos faits. À cause de vous, que j'aime et respecte, je plaiderai, mais après les élections, pour monsieur de Watteville. Jusque-là, son affaire sera conduite par Girardet d'après mes avis. Voilà tout ce que je puis faire. Mais il y a des questions qui ne peuvent se décider que d'après une inspection des localités, dit le vicaire général. « Girardet ira, répondit Savarus. Je ne veux pas me permettre, au milieu d'une ville que je connais très bien, une démarche de nature à compromettre les immenses intérêts que cache mon élection. » L'abbé de Grancey quitta Savarus en lui lançant un regard fin par lequel il semblait se rire de la politique compacte du jeune athlète, tout en admirant sa résolution. « Ah, j'aurais jeté mon père dans un procès. Ah, j'aurais tant fait pour l'introduire ici. » se disait Philomène du haut du kiosque en regardant l'avocat dans son cabinet, le lendemain de la conférence entre Albert et l'abbé de Grancey, dont le résultat lui fut dit par son père. « J'aurais commis des péchés mortels, et tu ne viendrais pas dans le salon de l'hôtel de Rupt, et je n'entendrais pas ta voix si riche. Tu mets des conditions à ton concours quand les Watteville et les Rupt le demandent? Eh bien, Dieu le sait, je me contentais de ces petits bonheurs. Te voir, t'entendre, aller au Rouxey avec toi pour me les faire consacrer par ta présence. Je ne voulais pas davantage, mais maintenant je serai ta femme. Oui, oui, regarde ses portraits, examine ses salons, sa chambre, les 4 faces de sa villa, les points de vue de ses jardins. Tu attends sa statue, je la rendrai de marbre elle-même pour toi. Cette femme n'aime pas d'ailleurs. les arts, les sciences, les lettres, le chant, la musique lui ont pris la moitié de ses sens et de son intelligence. Elle est vieille d'ailleurs, elle a plus de 30 ans. Et mon Albert serait malheureux ? Qu'avez-vous donc à rester là, Philomène ? Lui dit sa mère en venant troubler les réflexions de sa fille. Monsieur de Soulas est au salon, et il remarquait votre attitude qui, certes, annonçait plus de pensée qu'on ne doit en avoir à votre âge. Monsieur de Soulas est ennemi de la pensée ? Demanda-t-elle. Vous pensiez donc ? Dit madame de Watteville. Mais oui, maman. Eh bien, non, vous ne pensiez pas. Vous regardiez les fenêtres de cet avocat. Occupation qui n'est ni convenable ni décente et que monsieur de Soulas, moins qu'un autre, devait remarquer. Et pourquoi ? Dit Philomène. Mais, dit la baronne, il est temps que vous sachiez nos intentions. Amédée vous trouve bien, et vous ne serez pas malheureuse d'être comtesse de Soulas. Pâle comme un lys, Philomène ne répondit rien à sa mère, tant la violence de ses sentiments contrariés la rendit stupide. Mais en présence de cet homme qu'elle haïssait profondément depuis l'instant, elle trouva je ne sais quel sourire que trouvent les danseuses pour le public. Enfin, elle put rire. Elle eut la force de cacher sa fureur qui se calma, car elle résolut d'employer à ses desseins ce gros et niais jeune homme. « Monsieur Amédée, lui dit-elle pendant un moment où la baronne était en avant d'eux dans le jardin, en affectant de laisser les jeunes gens seuls, vous ignoriez donc que monsieur Albert Savaron de Savarus est légitimiste ?»« Légitimiste ?» Avant 1830, il était maître des requêtes au Conseil d'État, attaché à la présidence du Conseil des ministres. Bien vu du dauphin et de la dauphine, il eût été bien à vous de ne pas dire du mal de lui, mais il serait encore mieux d'aller aux élections cette année, de le porter et d'empêcher ce pauvre monsieur de Chavoncourt de représenter la ville de Besançon. Quel intérêt subit prenez-vous donc à ce Savaron ? Monsieur Albert de Savarus, fils naturel du comte de Savarus, oh, gardez-moi bien le secret de cette indiscrétion. S'il est nommé député, sera notre avocat dans l'affaire des Rouxey. Les Rouxey, m'a dit mon père, seront ma propriété. J'y veux demeurer, c'est ravissant. Je serais au désespoir de voir cette magnifique création du grand Watteville détruite. Diantre, se dit Amédée en sortant de l'hôtel de Rupt, cette fille n'est pas sotte. Monsieur de Chavoncourt est un royaliste qui appartient au fameux 221. Aussi, dès le lendemain de la Révolution de Juillet, prêcha-t-il la salutaire doctrine de la prestation du serment et de la lutte avec l'ordre de choses à l'instar des Tories contre les Whigs en Angleterre. Cette doctrine ne fut pas accueillie par les légitimistes qui, dans la défaite, eurent l'esprit de se diviser d'opinion et de s'en tenir à la force d'inertie et à la providence. En but à la défiance de son parti, M. de Chavoncourt parut aux gens du juste milieu le plus excellent choix à faire. Ils préférèrent le triomphe de ses opinions modérées à l'ovation d'un républicain qui réunissait les voix des exaltés et des patriotes. M. de Chavoncourt, homme très estimé dans Besançon, représentait une vieille famille parlementaire. Sa fortune, environ 15 000 francs de rente, ne choquait personne, d'autant plus qu'il avait un fils et 3 filles. 15 000 francs de rente ne sont rien avec de pareilles charges. Or, lorsqu'en de semblables circonstances un père de famille reste incorruptible, il est difficile que des électeurs ne l'estiment pas. Les électeurs se passionnent pour le beau idéal de la vertu parlementaire, tout autant qu'un parterre pour la peinture de sentiments généreux qu'ils pratiquent très peu. Madame de Chavoncourt, alors âgée de 40 ans, était une des belles femmes de Besançon. Pendant les sessions, elle vivait petitement dans un de ses domaines afin de retrouver, par ses économies, les dépenses que faisait à Paris M. de Chavoncourt. En hiver, elle recevait honorablement un jour par semaine, le mardi, mais en entendant très bien son métier de maîtresse de maison. Le jeune Chavoncourt, âgé de 22 ans, et un autre jeune gentilhomme nommé M. de Vauchelles, pas plus riche qu'Amédée, et de plus son camarade de collège, étaient excessivement liés. Ils se promenaient ensemble à Granvelle. Ils faisaient quelques parties de chasse ensemble. Ils étaient si connus pour être inséparables qu'on les invitait à la campagne ensemble. Philomène, également liée avec les petites Chavoncourt, savait que ces trois jeunes gens n'avaient point de secret les uns pour les autres. Elle se dit que si M. de Soulas commettait une indiscrétion, ce serait avec ses deux amis intimes. Or, M. de Vauchelles avait son plan fait pour son mariage comme Amédée pour le sien. Il voulait épouser Victoire, l'aînée des petites Chavoncourt, à laquelle une vieille tante devait assurer un domaine de 7 000 francs de rente et 100 000 francs d'argent au contrat. Victoire était la filleule et la prédilection de cette tante. Évidemment, alors le jeune Chavoncourt et Vauchelles avertiraient monsieur de Chavoncourt du péril que les prétentions d'Albert allaient lui faire courir. Mais ce ne fut pas assez pour Philomène. Elle écrivit de la main gauche au préfet du département une lettre anonyme signée « Un ami de Louis-Philippe » où elle le prévenait de la candidature tenue secrète de monsieur Albert de Savarus, en lui faisant apercevoir le dangereux concours qu'un orateur royaliste prêterait à Berryer et lui dévoilant la profondeur de la conduite tenue par l'avocat depuis 2 ans à Besançon. Le préfet était un homme habile, ennemi personnel du parti royaliste et dévoué par conviction au gouvernement de Juillet. Enfin, un de ces hommes qui font dire, rue de Grenelle, au ministère de l'Intérieur, « Nous avons un bon préfet à Besançon. » Ce préfet lut la lettre et, selon la recommandation, il la brûla. Philomène voulait faire manquer l'élection d'Albert pour le conserver pendant 5 autres années à Besançon. Les élections furent alors une lutte entre les partis et pour en triompher, le ministère choisit son terrain en choisissant le moment de la lutte. Ainsi, les élections ne devaient avoir lieu qu'à 3 mois de là. Quand un homme attend toute sa vie d'une élection, le temps qui s'écoule entre l'ordonnance de convocation des collèges électoraux et le jour fixé pour leurs opérations est un temps pendant lequel la vie ordinaire est suspendue. Aussi, Philomène comprit-elle combien de latitude lui laissaient pendant ces 3 mois les préoccupations d'Albert. Elle obtint de Mariette, à qui, comme elle l'avoua plus tard, elle promit de la prendre ainsi que Jérôme à son service, de lui remettre les lettres qu'Albert enverrait en Italie et les lettres qui viendraient pour lui de ce pays. Et, tout en machinant ses plans, cette étonnante fille faisait des pantoufles à son père de l'air le plus naïf du monde. Elle redoubla même de candeur et d'innocence en comprenant à quoi pouvait servir son air d'innocence et de candeur. « Philomène devient charmante », disait la baronne de Watteville. Fin de la 54e section. Cinquante-cinquième section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 55e section. 2 mois avant les élections, une réunion eut lieu chez M. Boucher le père, composé de l'entrepreneur qui comptait sur les travaux du pont et des eaux d'Arcier, du beau-père de M. Boucher, de M. Granet, cet homme influent à qui Savarus avait rendu service et qui devait le proposer comme candidat, de l'avoué Girardet, de l'imprimeur de la Revue de l'Est et du président du tribunal de commerce. Enfin, cette réunion compta 27 de ces personnes appelées dans les provinces les gros bonnets. Chacune d'elles représentait en moyenne 6 voix. Mais en les recensant, elles furent portées à 10, car on commence toujours par s'exagérer à soi-même son influence. Parmi ces 27 personnes, le préfet en avait une à lui, quelques faux frères qui secrètement attendaient une faveur du ministère pour les siens ou pour lui-même. Dans cette première réunion, on convint de choisir l'avocat Savaron pour candidat, avec un enthousiasme que personne n'aurait pu espérer à Besançon. En attendant chez lui qu'Alfred Boucher vint le chercher, Albert causait avec l'abbé de Grancey, qui s'intéressait à cette immense ambition. Albert avait reconnu l'énorme capacité politique du prêtre, et le prêtre, ému par les prières de ce jeune homme, avait bien voulu lui servir de guide et de conseil dans cette lutte suprême. Le chapitre n'aimait pas monsieur de Chavoncourt, car le beau-frère de sa femme, président du tribunal, avait fait perdre le fameux procès en première instance. « Vous êtes trahi, mon cher enfant, » lui disait le fin et respectable abbé de cette voix douce et calme que se font les vieux prêtres. « Trahi ? » s'écria l'amoureux atteint au cœur. « Et par qui ? Je n'en sais rien, » répliqua le prêtre. « La préfecture est au fait de vos plans et lit dans votre jeu. Je ne puis vous donner en ce moment aucun conseil. De semblables affaires veulent être étudiées. Quant à ce soir, dans cette réunion, allez au-devant des coups qu'on va vous porter. » Dites toute votre vie antérieure, vous atténuerez ainsi l'effet que cette découverte produirait sur les Byzantins. Oh, je m'y suis attendu, dit Savarus d'une voix altérée. Vous n'avez pas voulu profiter de mon conseil. Vous avez eu l'occasion de vous produire à l'hôtel de Rupt. Vous ne savez pas ce que vous y auriez gagné. Quoi ? L'unanimité des royalistes. Un accord momentané pour aller aux élections. Enfin, plus de 100 voix. En y joignant ce que nous appelons entre nous les voix ecclésiastiques, vous n'étiez pas encore nommé, mais vous étiez maître de l'élection par le ballotage. Dans ce cas, on parlemente, on arrive. En entrant, Alfred Boucher, qui plein d'enthousiasme annonça le vœu de la réunion préparatoire, trouva le vicaire général et l'avocat froids, calmes et graves. « Adieu, monsieur l'abbé, dit Albert. Nous causerons plus à fond de votre affaire après les élections. » Et l'avocat prit le bras d'Alfred, après avoir serré significativement la main de monsieur de Grancey. Le prêtre regarda cet ambitieux, dont alors le visage eut cet air sublime que doivent avoir les généraux en entendant le premier coup de canon de la bataille. Il leva les yeux au ciel et sortit en se disant « Quel beau prêtre il ferait !» L'éloquence n'est pas au barreau. Rarement l'avocat y déploie les forces réelles de l'âme, autrement il y périrait en quelques années. L'éloquence est rarement dans la chair aujourd'hui, mais elle est dans certaines séances de la Chambre des députés où l'ambitieux joue le tout pour le tout, où piqué de 1000 flèches il éclate à un moment donné. Mais elle est encore bien certainement chez certains êtres privilégiés dans le quart d'heure fatal où leurs prétentions vont échouer ou réussir, et où ils sont forcés de parler. Aussi, dans cette réunion, Albert Savarus, en sentant la nécessité de se faire des séides, développa-t-il toutes les facultés de son âme et les ressources de son esprit. Il entra bien dans le salon, sans gaucherie ni arrogance, sans faiblesse, sans lâcheté, gravement, et se vit sans surprise au milieu de 30 et quelques personnes. Déjà le bruit de la réunion et sa décision avaient amené quelques moutons dociles à la clochette. Avant d'écouter M. Boucher, qui voulait lui lâcher un speech à propos de la résolution du comité Boucher, Albert réclama le silence en faisant un signe et serrant la main à M. Boucher, comme pour le prévenir d'un danger subitement advenu. « Mon jeune ami, Alfred Boucher, vient de m'annoncer l'honneur qui m'est fait. Mais avant que cette décision devienne définitive, dit l'avocat, je crois devoir vous expliquer quel est votre candidat, afin de vous laisser libre encore de reprendre vos paroles si mes déclarations troublaient vos consciences. » Cet exorde eut pour effet de faire régner un profond silence. Quelques hommes trouvèrent ce mouvement fort noble. Albert expliqua sa vie antérieure en disant son vrai nom, ses œuvres sous la Restauration, en se faisant un homme nouveau depuis son arrivée à Besançon, en prenant des engagements pour l'avenir. Cette improvisation tint, dit-on, tous les auditeurs haletants. Ces hommes à intérêts si divers furent subjugués par l'admirable éloquence sortie bouillante du cœur et de l'âme de cet ambitieux. L'admiration empêcha toute réflexion. On ne comprit qu'une seule chose, la chose qu'Albert voulait jeter dans ses têtes. Ne valait-il pas mieux pour une ville avoir un de ces hommes destinés à gouverner la société tout entière qu'une machine à voter? Un homme d'État apporte tout un pouvoir, le député médiocre mais incorruptible n'est qu'une conscience. Quelle gloire pour la Provence d'avoir deviné Mirabeau, d'avoir envoyé depuis 1830 le seul homme d'État qui ait produit la Révolution de Juillet. Soumis à la pression de cette éloquence, tous les auditeurs la crurent de force à devenir un magnifique instrument politique dans leurs représentants. Ils virent tous Savarus, le ministre, dans Albert Savaron. En devinant les secrets calculs de ces auditeurs, l'habile candidat leur fit entendre qu'ils acquéraient, eux les premiers, le droit de se servir de son influence. Cette profession de foi, cette déclaration d'ambitieux, ce récit de sa vie et de son caractère fut, au dire du seul homme capable de juger Savarus et qui depuis est devenu l'une des capacités de Besançon, un chef-d'œuvre d'adresse, de sentiment, de chaleur, d'intérêt et de séduction. Ce tourbillon enveloppa les électeurs. Jamais homme n'eut un pareil triomphe. Mais malheureusement la parole, espèce d'arme à bout portant, n'a qu'un effet immédiat. La réflexion tue la parole quand la parole n'a pas triomphé de la réflexion. Si l'on eût voté, certes, le nom d'Albert sortait de l'urne. À l'instant même, il était vainqueur. mais il lui fallait vaincre ainsi tous les jours pendant 2 mois. Albert sortit palpitant. Applaudi par des bisontins, il avait obtenu le grand résultat, de tuer par avance les méchants propos auxquels donneraient lieu ses antécédents. Le commerce de Besançon fit de l'avocat Savaron de Savarus son candidat. L'enthousiasme d'Alfred Boucher, contagieux d'abord, devait à la longue devenir maladroit. Le préfet, épouvanté de ce succès, se mit à compter le nombre des voix ministérielles et sut se ménager une entrevue secrète avec monsieur de Chavoncourt, afin de se coaliser dans l'intérêt commun. Chaque jour, et sans qu'Albert pût savoir comment, les voix du comité Boucher diminuèrent. 1 mois avant les élections, Albert se voyait à peine 60 voix. Rien ne résistait au lent travail de la préfecture. 3 ou 4 hommes habiles disaient aux clients de Savarus « Le député plaidera-t-il et gagnera-t-il vos affaires? Vous donnera-t-il ses conseils? Fera-t-il vos traités, vos transactions? Vous l'aurez pour esclave encore pour 5 ans, si au lieu de l'envoyer à la chambre, vous lui donnez seulement l'espérance d'y aller dans 5 ans. » Ce calcul fut d'autant plus nuisible à Savarus que déjà quelques femmes de négociants l'avaient fait. Les intéressés à l'affaire du pont et ceux des eaux d'Arcier ne résistèrent pas à une conférence avec un adroit ministériel, qui leur prouva que la protection pour eux était à la préfecture et non pas chez un ambitieux. Chaque jour fut une défaite pour Albert, quoique chaque jour fût une bataille dirigée par lui, mais jouée par ses lieutenants, une bataille de mots, de discours, de démarches. Il n'osait aller chez le vicaire général, et le vicaire général ne se montrait pas. Albert se levait et se couchait avec la fièvre et le cerveau tout en feu. Enfin arriva le jour de la première lune, ce qu'on appelle une réunion préparatoire, où les voix se comptent, où les candidats jugent leurs chances, et où les gens habiles peuvent prévoir la chute ou le succès. C'est une scène de Hustings, honnête, sans populace, mais terrible. Les émotions, pour ne pas avoir d'expression physique comme en Angleterre, n'en sont pas moins profondes. Les Anglais font les choses à coups de poing, en France elles se font à coups de phrases. Nos voisins ont une bataille, les Français jouent leur sort par de froides combinaisons élaborées avec calme. Cet acte politique se passe à l'inverse du caractère des deux nations. Le parti radical eut son candidat, monsieur de Chavoncourt, se présenta, puis vint Albert, qui fut accusé par les radicaux et par le comité Chavoncourt d'être un homme de la droite, sans transaction, un double de Berryer. Le ministère avait son candidat, un homme sacrifié qui servait à amasser les votes ministériels purs. Les voix ainsi divisées n'arrivèrent à aucun résultat. Le candidat républicain eut 20 voix, le ministère en réunit 50, Albert en compta 70, monsieur de Chavoncourt en obtint 67. Mais la perfide préfecture avait fait voter pour Albert 30 de ses voix les plus dévouées, afin d'abuser son antagoniste. Les voix de monsieur de Chavoncourt réunies aux 80 voix réelles de la préfecture devenaient maîtresses de l'élection, pour peu que le préfet sût détacher quelques voix du parti radical. 160 voix manquaient, les voix de monsieur de Grancey et les voix légitimistes. Une réunion préparatoire est aux élections ce qu'est au théâtre une répétition générale, ce qu'il y a de plus trompeur au monde. Albert Savarus revint chez lui, faisant bonne contenance, mais mourant. Il avait eu l'esprit, le génie ou le bonheur de conquérir dans ses 15 derniers jours 2 hommes dévoués, le beau-père de Girardet et un vieux négociant très fin chez qui l'envoya monsieur de Grancey. Ces 2 braves gens devenus ses espions semblaient être les plus ardents ennemis de Savarus dans les camps opposés. Sur la fin de la séance préparatoire, ils apprirent à Savarus, par l'intermédiaire de monsieur Boucher, que 30 voix inconnues faisaient contre lui, dans son parti, le métier qu'il faisait pour son compte chez les autres. Un criminel qui marche au supplice ne souffre pas ce qu'Albert souffrit en revenant chez lui de la salle où son sort s'était joué. L'amoureux au désespoir ne voulut être accompagné de personne. Il marcha seul par les rues entre 11 heures et minuit. À 1 heure du matin, Albert, que depuis 3 jours le sommeil ne visitait plus, était assis dans sa bibliothèque, sur un fauteuil à la Voltaire, la tête pâle, comme s'il allait expirer, les mains pendantes, dans une pose d'abandon digne de la Madeleine. Des larmes roulaient entre ses longs cils, de ces larmes qui mouillent les yeux et qui ne roulent pas sur les joues. La pensée les boit, le feu de l'âme les dévore. Seul, il pouvait pleurer. Il aperçut alors sous le kiosque une forme blanche qui lui rappela Francesca. Et voici 3 mois que je n'ai reçu de lettre d'elle. Que devient-elle? Je suis resté 2 mois sans lui rien écrire, mais je l'ai prévenue. Est-elle malade? Ô mon amour, ô ma vie, serais-tu jamais ce que j'ai souffert? Quelle fatale organisation est la mienne? Ai-je un anévrisme? Se demanda-t-il en sentant son cœur qui battait si violemment que les pulsations retentissaient dans le silence, comme si de légers grains de sable eussent frappé sur une grosse caisse. En ce moment, 3 coups discrets retentirent à la porte d'Albert. Il alla promptement ouvrir, et faillit se trouver mal de joie en voyant au vicaire général un air gai, l'air du triomphe. Il saisit l'abbé de Grancey, sans lui dire un mot, le tint dans ses bras, le serra, laissant aller sa tête sur l'épaule de ce vieillard. Et il redevint enfant. Il pleura comme il avait pleuré quand il sut que Francesca Soderini était mariée. Il ne laissa voir sa faiblesse qu'à ce prêtre, sur le visage de qui brillaient les lueurs d'une espérance. Le prêtre avait été sublime, et aussi fin que sublime. « Pardon, cher abbé, mais vous êtes venu dans un de ces moments suprêmes où l'homme disparaît, car vous ne me croyez pas un ambitieux vulgaire. » « Oui, je le sais, reprit l'abbé. Vous avez écrit « L'ambitieux par amour ». Eh, mon enfant, c'est un désespoir d'amour qui m'a fait prêtre en 1786, à 22 ans. En 1788, j'étais curé. Je sais la vie. J'ai déjà refusé 3 évêchés. Je veux mourir à Besançon. « Venez la voir !» s'écria Savarus en prenant la bougie et menant l'abbé dans le cabinet magnifique où se trouvait le portrait de la duchesse d'Argaiolo qui l'éclaira. « C'est une de ces femmes qui sont faites pour régner, » dit le vicaire en comprenant ce qu'Albert lui témoignait d'affection par cette muette confidence. « Mais il y a bien de la fierté sur ce front. Il est implacable. Elle ne pardonnerait pas une injure. C'est un archange Michel, l'ange des exécutions, l'ange inflexible, tout ou rien, est la devise de ses caractères angéliques. Il y a je ne sais quoi de divinement sauvage dans cette tête. « Vous l'avez bien deviné, » s'écria Savarus. « Mais, mon cher abbé, voici plus de 12 ans qu'elle règne sur ma vie, et je n'ai pas une pensée à me reprocher. » « Ah, si vous en aviez autant fait pour Dieu, » dit naïvement l'abbé, « parlons de vos affaires. Voici 10 jours que je travaille pour vous. Si vous êtes un vrai politique, vous suivrez mes conseils cette fois-ci. Vous n'en seriez pas où vous en êtes si vous étiez allé, quand je vous le disais, à l'hôtel de Rupt. Mais vous irez demain. » Je vous y présente le soir. La terre des Rouxey est menacée, il faut plaider dans 2 jours. L'élection ne se fera pas avant 3 jours. On aura soin de ne pas avoir fini de constituer le bureau le premier jour. Nous aurons plusieurs scrutins et vous arriverez par un ballottage. Et comment? En gagnant le procès des Rouxey. Vous aurez 80 voix légitimistes. Ajoutez-les aux 30 voix dont je dispose, nous arrivons à 110. Or, comme il vous en restera 20 du comité Boucher, vous en posséderez en tout 130. « Eh bien, » dit Albert, « il en faut 75 de plus. » « Oui, » dit le prêtre, « car tout le reste est au ministère. Mais mon enfant, vous avez à vous 200 voix, et la préfecture n'en a que 180. »« J'ai 200 voix ?» dit Albert, qui demeura stupide d'étonnement, après s'être dressé sur ses pieds comme poussé par un ressort. « Vous avez les voix de monsieur de Chavoncourt, » reprit l'abbé. « Et comment ?» dit Albert. « Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt ?»« Jamais. Vous épousez mademoiselle Sidonie de Chavoncourt ?» répéta froidement le prêtre. « Mais voyez, elle est implacable, » dit Albert en montrant Francesca. « Vous épousez mademoiselle Chavoncourt, » répéta froidement le prêtre pour la 3e fois. Cette fois, Albert comprit. Le vicaire général ne voulait pas tremper dans le plan qui souriait enfin à ce politique au désespoir. Une parole de plus eût compromis la dignité, l'honnêteté du prêtre. « Vous trouverez demain, à l'hôtel de Rupt, Madame de Chavoncourt et sa seconde fille. Vous la remercierez de ce qu'elle doit faire pour vous. Vous lui direz que votre reconnaissance est sans borne. Enfin, vous lui appartenez corps et âme. Votre avenir est désormais celui de sa famille. Vous êtes désintéressé. Vous avez une si grande confiance en vous que vous regardez une nomination de député comme une dot suffisante. Vous aurez un combat avec madame de Chavoncourt. Elle voudra votre parole. Cette soirée, mon fils, est tout votre avenir. Mais sachez-le, je ne suis pour rien là-dedans. Moi, je ne suis coupable que des voix légitimistes. Je vous ai conquis madame de Watteville, et c'est toute l'aristocratie de Besançon. Amédée de Soulas et Vauchel, qui voteront pour vous, ont entraîné la jeunesse. Madame de Watteville vous aura les vieillards. Quant à mes voix, elles sont infaillibles. Qui donc a tourné madame de Chavoncourt ? Demanda Savarus. Ne me questionnez pas, répondit l'abbé. Monsieur de Chavoncourt, qui a trois filles à marier, est incapable d'augmenter sa fortune. Si Vauchel épouse la première sans dot, à cause de la vieille tante qui finance au contrat, que faire des deux autres ? Si Denis a 16 ans, et vous avez des trésors dans votre ambition. Quelqu'un a dit à madame de Chavoncourt qu'il valait mieux marier sa fille que d'envoyer son mari manger de l'argent à Paris. Ce quelqu'un mène madame de Chavoncourt, et madame de Chavoncourt mène son mari. Assez, cher abbé, je comprends. Une fois nommé député, j'ai la fortune de quelqu'un à faire, et en la faisant splendide, je serai dégagé de ma parole. Vous avez en moi un fils, un homme qui vous devra son bonheur. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter une si véritable amitié ? Vous avez fait triompher le chapitre, dit en souriant le vicaire général. Maintenant, gardez le secret du tombeau sur tout ceci. Nous ne sommes rien, nous ne faisons rien. Si l'on nous savait, nous, mêlant d'élections, nous serions mangés tout crus par les puritains de la gauche qui font pis et blâmés par quelques-uns des nôtres. Madame de Chavoncourt ne se doute pas de ma participation dans tout ceci. Je ne me suis fié qu'à madame de Watteville, sur qui nous pouvons compter comme sur nous-mêmes. Je vous amènerai la duchesse pour que vous nous bénissiez, s'écria l'ambitieux. Après avoir reconduit le vieux prêtre, Albert se coucha dans les langes du pouvoir. À 9 heures du soir, le lendemain, comme chacun peut se l'imaginer, les salons de madame, la baronne de Watteville, étaient remplis par l'aristocratie byzantine, convoquée extraordinairement. On y discutait l'exception d'aller aux élections pour faire plaisir à la fille des deux ruptes. On savait que l'ancien maître des requêtes, le secrétaire d'un des plus fidèles ministres de la branche aînée, allait être introduit. Madame de Chavoncourt était venue avec sa seconde fille, Sidonie, mise divinement bien, tandis que l'aînée, sûre de son prétendu, n'avait recours à aucun artifice de toilette. Ces petites choses s'observent en province. L'abbé de Grancey montrait sa belle tête fine, de groupe en groupe, écoutant, n'ayant l'air de se mêler de rien, mais disant de ces mots incisifs qui résument les questions et les commandes. « Si la branche aînée revenait, disait-il à un ancien homme d'État septuagénaire, quelle politique trouverait-elle ? Seul sur son banc, Berryer ne sait que devenir. S'il avait 60 voix, il entraverait le gouvernement dans bien des occasions et renverserait des ministères. On va nommer le duc de Fitz-James à Toulouse. Vous ferez gagner à monsieur de Watteville son procès. Si vous votez pour monsieur de Savarus, les républicains voteront avec vous plutôt que de voter avec les justes milieux, etc., etc. » À 9 heures, Albert n'était pas encore venu. Madame de Watteville voulut voir une impertinence dans un pareil retard. « Chère baronne, dit madame de Chavoncourt, ne faisons pas dépendre d'une vétille de si sérieuses affaires. Quelques bottes vernies qui tardent à sécher, une consultation retiennent peut-être monsieur de Savarus. » Philomène regarda madame de Chavoncourt de travers. « Elle est bien bonne pour monsieur de Savarus, dit Philomène tout bas à sa mère. » Mais reprit la baronne en souriant, « Il s'agit d'un mariage entre Sidonie et monsieur de Savarus. » Philomène alla brusquement vers une croisée qui donnait sur le jardin. À 10 heures, monsieur de Savarus n'avait pas encore paru. L'orage qui grondait éclata. Quelques nobles se mirent à jouer, trouvant la chose intolérable. L'abbé de Grancey, qui ne savait que penser, alla vers la fenêtre où Philomène s'était caché et dit tout haut, tant il était stupéfait, « Il doit être mort !» Le vicaire général sortit dans le jardin, suivi de monsieur de Watteville, de Philomène, et tous trois ils montèrent sur le kiosque. Tout était fermé chez Albert. Aucune lumière ne s'apercevait. « Jérôme !» cria Philomène en voyant le domestique dans la cour. L'abbé de Grancey regarda. « Où donc est votre maître ?» dit Philomène, au domestique venu au pied du mur. « Parti en poste, mademoiselle. »« Il est perdu !» s'écria l'abbé de Grancey. « Ou heureux !» La joie du triomphe ne fut pas si bien étouffée sur la figure de Philomène qu'elle ne fut devinée par le vicaire général qui feignit de ne s'apercevoir de rien. « Qu'est-ce que Philomène a pu faire en ceci ?» se demandait le prêtre. Tous trois, ils rentrèrent dans les salons, où M. de Watteville annonça l'étrange, la singulière, l'ébouriffante nouvelle du départ de l'avocat Albert Savaron de Savarus en poste, sans qu'on sût les motifs de cette disparition. À 11h30, il ne restait plus que 15 personnes, parmi lesquelles se trouvaient Madame de Chavoncourt et l'abbé de Godenard, autre vicaire général, homme d'environ 40 ans qui voulait être évêque, les deux demoiselles de Chavoncourt et M. de Vauchelles, l'abbé Grancé, Philomène, Amédée de Soulas et un ancien magistrat démissionnaire, l'un des plus influents personnages de la haute société de Besançon qui tenait beaucoup à l'élection d'Albert Savarus. L'abbé de Grancé se mit à côté de la baronne de manière à regarder Philomène dont la figure, ordinairement pâle, offrait alors une coloration fiévreuse. « Que peut-il être arrivé à monsieur de Savarus ?» dit madame de Chavoncourt. En ce moment, un domestique en livrée apporta sur un plat d'argent une lettre à l'abbé de Grancé. « Lisez, » dit la baronne. Le vicaire général lut la lettre et vit Philomène devenir soudain blanche comme son fichu. « Elle reconnaît l'écriture, » se dit-il, après avoir jeté sur la jeune fille un regard par-dessus ses lunettes. Il plia la lettre et la mit froidement dans sa poche sans dire un mot. En 3 minutes, il reçut de Philomène 3 regards qui lui suffirent à tout deviner. « Elle aime Albert Savarus, » pensa le vicaire général. Il se leva. Philomène reçut une commotion. Il salua, fit quelques pas vers la porte, et dans le second salon, il fut rejoint par Philomène qui lui dit « Monsieur de Grancé, c'est de lui, d'Albert ? Comment pouvez-vous assez connaître son écriture pour la distinguer de si loin ?» Cette fille, prise dans les lacs de son impatience et de sa colère, dit un mot que l'abbé trouva sublime. « Parce que je l'aime ? Qu'y a-t-il » dit-elle après une pause. « Il renonce à son élection, » répondit l'abbé. Philomène se mit un doigt sur les lèvres. « Je demande le secret, comme pour une confession, » dit-elle, avant de rentrer au salon. « S'il n'y a plus d'élection, il n'y aura plus de mariage avec Sidonie. » Le lendemain matin, Philomène, en allant à la messe, apprit par Mariette une partie des circonstances qui motivaient la disparition d'Albert au moment le plus critique de sa vie. « Mademoiselle, il est arrivé de Paris dans la matinée à l'Hôtel National un vieux monsieur qui avait sa voiture, une belle voiture à 4 chevaux, un courrier en avant et un domestique. Enfin, Jérôme, qui a vu la voiture au départ, prétend que ce ne peut être qu'un prince ou qu'un milord. « Y avait-il sur la voiture une couronne fermée ?» dit Philomène. « Je ne sais pas, » dit Mariette. « Sur le coup de 2 heures, il est venu chez Monsieur Savarus en lui faisant remettre sa carte. En la voyant, « Monsieur, » dit Jérôme, « est devenu blanc comme un linge et il a dit de faire entrer. Comme il a fermé lui-même sa porte à clé, il est impossible de savoir ce que ce vieux monsieur et l'avocat se sont dit, mais ils sont restés environ 1 heure ensemble. » Après quoi le vieux monsieur, accompagné de l'avocat, a fait monter son domestique. Jérôme a vu sortir ce domestique avec un immense paquet long de 4 pieds qui avait l'air d'une grosse toile à canevas. Le vieux monsieur tenait à la main un gros paquet de papier. L'avocat, plus pâle que s'il allait mourir, lui qui est si fier, si digne, était dans un état à faire pitié. Mais il agissait si respectueusement avec le vieux monsieur qu'il n'aurait pas eu plus d'égard pour le roi. Jérôme et M. Albert Savaron ont accompagné ce vieillard jusqu'à sa voiture, qui se trouvait tout attelée de 4 chevaux. Le courrier est parti sur le coup de 3 heures. Monsieur est allé droit à la préfecture, et de là chez M. Gentillet, qui lui a vendu la vieille calèche de voyage de feu Madame Saint-Vier. Puis il a commandé des chevaux à la poste pour 6 heures. Il est rentré chez lui pour faire ses paquets. Sans doute il a écrit plusieurs billets. Enfin, il a mis ordre à ses affaires avec M. Girardet, qui est venu et qui est resté jusqu'à 7 heures. Jérôme a porté un mot chez M. Boucher, où M. était attendu à dîner. Pour l'heure, à 7h30, l'avocat est parti, laissant 3 mois de gage à Jérôme et lui disant de chercher une place. Il a laissé ses clés à M. Girardet, qui l'a reconduit chez lui, et chez qui, dit Jérôme, il a pris une soupe, car M. Girardet n'avait pas encore dîné à 7h30. Quand M. Savaron est remonté dans sa voiture, il était comme un mort. Jérôme, qui naturellement a salué son maître, l'a entendu, disant au postillon « Route de Genève ». Jérôme a-t-il demandé le nom de l'étranger à l'Hôtel National ? Comme le vieux monsieur ne faisait que passer, on ne le lui a pas demandé. Le domestique, par ordre sans doute, avait l'air de ne pas parler français. « Et la lettre qu'a reçue si tard l'abbé de Grancey ?» dit Philomène. « C'est sans doute M. Girardet qui devait la lui remettre. Mais Jérôme dit que ce pauvre M. Girardet, qui aime l'avocat Savaron, était tout aussi saisi que lui. « Celui qui est venu avec mystère s'en va, » dit Mademoiselle Galard, « avec mystère. » Fin de la 55e section. Cinquante-sixième section des scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 56e section. Philomène eut à partir de ce récit un air penseur et absorbé, qui fut visible pour tout le monde. Il est inutile de parler du bruit que fit dans Besançon la disparition de l'avocat Savaron. On sut que le préfet s'était prêté de la meilleure grâce du monde à lui expédier à l'instant un passeport pour l'étranger, car il se trouvait ainsi débarrassé de son seul adversaire. Le lendemain, M. de Chavoncourt fut nommé d'emblée à une majorité de 140 voix. « Jean s'en alla comme il était venu, » dit un électeur, en apprenant la fuite d'Albert Savaron. Cet événement vint à l'appui des préjugés qui existent à Besançon contre les étrangers et qui, 2 ans auparavant, s'étaient corroborés à propos de l'affaire du journal républicain. Puis, 10 jours après, il n'était plus question d'Albert de Savarus. 3 personnes seulement, l'avoué Girardet, le vicaire général et Philomène, étaient gravement affectés par cette disparition. Girardet savait que l'étranger aux cheveux blancs était le prince Soderini, car il avait vu la carte. Il le dit au vicaire général. Mais Philomène, beaucoup plus instruite qu'eux, connaissait depuis environ 3 mois la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo. Au mois d'avril 1836, personne n'avait eu de nouvelles, ni entendu parler de M. Albert de Savarus. Jérôme et Mariette allaient se marier, mais la baronne avait dit confidentiellement à sa femme de chambre d'attendre le mariage de Philomène et que les 2 noces se feraient ensemble. « Il est temps de marier Philomène, » dit un jour la baronne à M. de Watteville. « Elle a 19 ans, et depuis quelques mois, elle change à faire peur. »« Je ne sais pas ce qu'elle a, » dit le baron. « Quand les pères ne savent pas ce qu'ont leurs filles, les mères le devinent, » dit la baronne. « Il faut la marier. »« Je le veux bien, » dit le baron, « et pour mon compte, je lui donne les Rouxey. Maintenant que le tribunal nous a mis d'accord avec la commune d'Hérissé, en fixant mes limites à 300 mètres à partir de la base de la Dent de Villard. On y creuse un fossé pour recevoir toutes les eaux et les diriger dans le lac. La commune n'a pas appelé, le jugement est définitif. « Vous n'avez pas encore deviné, » dit la baronne, « que ce jugement me coûte 30 000 francs donnés à Chantonnay. Ce paysan ne voulait pas autre chose. Il a l'air d'avoir gain de cause pour sa commune, et il nous a vendu la paix. Si vous donnez les Rouxey, vous n'aurez plus rien, » dit la baronne. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, » dit le baron. « Je m'en vais. » « Vous mangez comme un ogre ?» « Précisément, j'ai beau manger, je me sens les jambes de plus en plus faibles. »« C'est de tourner, » dit la baronne. « Je ne sais pas, » dit le baron. « Nous marierons Philomène à monsieur de Soulas. Si vous lui donnez les Rouxey, réservez-vous-en la jouissance. Moi, je leur donnerai 24 000 francs de rente sur le grand livre. Nos enfants demeureront ici. Je ne les vois pas bien malheureux. »« Non, je leur donne les Rouxey tout à fait. Philomène aime les Rouxey. »« Vous êtes singulier avec votre fille. » « Vous ne me demandez pas à moi si j'aime les Rouxey ?» Philomène, appelée incontinent, apprit qu'elle épouserait M. Amédée de Soulas dans les premiers jours du mois de mai. « Je vous remercie, ma mère, et vous, mon père, d'avoir pensé à mon établissement. Mais je ne veux pas me marier. Je suis très heureuse d'être avec vous. »« Des phrases, » dit la baronne. « Vous n'aimez pas M. le comte de Soulas, voilà tout. Si vous voulez savoir la vérité, « je n'épouserai jamais M. de Soulas. »« Oh, le jamais d'une fille de 19 ans !» reprit la baronne en souriant avec amertume. « Le jamais de Mademoiselle de Watteville !» reprit Philomène avec un accent prononcé. « Mon père n'a pas, je pense, l'intention de me marier sans mon consentement. »« Oh, ma foi, non !» dit le pauvre baron en regardant sa fille avec tendresse. « Eh bien, » répliqua sèchement la baronne en contenant une fureur de dévote, surprise de se voir bravée à l'improviste, « chargez-vous, monsieur de Watteville, d'établir vous-même votre fille. Songez-y bien, Philomène. Si vous ne vous mariez pas à mon gré, vous n'aurez rien de moi pour votre établissement. » La querelle ainsi commencée entre madame de Watteville et le baron qui appuyait sa fille alla si loin que Philomène et son père furent obligés de passer la belle saison au Rouxey. L'habitation de l'hôtel de Rupt leur était devenue insupportable. On apprit alors dans Besançon que mademoiselle de Watteville avait positivement refusé monsieur le comte de Soulas. Après leur mariage, Jérôme et Mariette étaient venus au Rouxey pour succéder un jour à Modinier. Le baron répara, restera la chartreuse au goût de sa fille. En apprenant que cette réparation coûtait environ 60 000 francs, que Philomène et son père faisaient construire une serre, la baronne reconnut quelques levains de malice dans sa fille. Le baron acheta plusieurs enclaves et un petit domaine d'une valeur de 30 000 francs. On dit à madame de Watteville que loin d'elle, Philomène se montrait une maîtresse-fille. Elle étudiait les moyens de faire valoir les Rouxey, s'était donné une amazone et montait à cheval. Son père, qu'elle rendait heureux, qui ne se plaignait plus de sa santé, qui devenait gras, l'accompagnait dans ses excursions. Aux approches de la fête de la baronne, qui se nommait Louise, le vicaire général vint alors au Rouxey, sans doute envoyé par madame de Watteville et par monsieur de Soulas pour négocier la paix entre la mère et la fille. « Cette petite Philomène a de la tête, » disait-on dans Besançon. Après avoir noblement payé les 90 000 francs dépensés au Rouxey, la baronne faisait passer à son mari 1 000 francs par mois environ pour y vivre. Elle ne voulait pas se donner des torts. Le père et la fille ne demandèrent pas mieux que de retourner, le 15 août, à Besançon, pour y rester jusqu'à la fin du mois. Quand le vicaire général, après le dîner, prit Philomène à part pour entamer la question du mariage, en lui faisant comprendre qu'il ne fallait plus compter sur Albert de qui, depuis un an, on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté net par un geste de Philomène. Cette bizarre fille saisit monsieur de Grancey par le bras et l'amena sur un banc, sous un massif de rhododendrons, d'où se découvrait le lac. « Écoutez, cher abbé, vous que j'aime autant que mon père, car vous avez de l'affection pour mon Albert, il faut enfin vous l'avouer, j'ai commis des crimes pour être sa femme, et il doit être mon mari. Tenez, lisez. » Elle lui tendit un numéro de gazette qu'elle avait dans la poche de son tablier, en lui indiquant l'article suivant sous la rubrique de Florence au 25 mai. Le mariage de monsieur le duc de Rhétoré, fils aîné de monsieur le duc de Chaulieu, ancien ambassadeur, avec madame la duchesse d'Argaiolo, née princesse Soderini, s'est célébré avec beaucoup d'éclat. Des fêtes nombreuses données à l'occasion de ce mariage animent en ce moment la ville de Florence. La fortune de madame la duchesse d'Argaiolo est une des plus considérables de l'Italie, car le feu duc l'avait instituée sa légataire universelle. « Celle qu'il aimait est mariée, » dit-elle. « Je les ai séparées. »« Vous et comment ?» dit l'abbé. Philomène allait répondre lorsqu'un grand cri jeté par deux jardiniers et précédé du bruit d'un corps tombant à l'eau l'interrompit. Elle se leva, courut en criant « Oh, mon père !» Elle ne voyait plus le baron. En voulant prendre un fragment de granit où il crut apercevoir l'empreinte d'un coquillage, fait qui eût souffleté quelque système de géologie, monsieur de Watteville s'était avancé sur le talus, avait perdu l'équilibre et roulé dans le lac dont la plus grande profondeur se trouve naturellement au pied de la chaussée. Les jardiniers eurent une peine infinie à faire prendre au baron une perche en fouillant à l'endroit où bouillonnait l'eau. Mais enfin ils le ramenèrent, couvert de vases où il était entré très avant et où il enfonçait davantage en se débattant. Monsieur de Watteville avait beaucoup dîné, sa digestion était commencée, elle fut interrompue. Quand il eut été déshabillé, nettoyé, mis au lit, il fut dans un état si visiblement dangereux que deux domestiques montèrent à cheval, l'un pour Besançon, l'autre pour aller chercher au plus près un médecin et un chirurgien. Quand madame de Watteville arriva, 8 heures après l'événement, avec les premiers chirurgiens et médecins de Besançon, ils trouvèrent monsieur de Watteville dans un état désespéré. Malgré les soins intelligents du médecin d'Hérissé, la peur déterminait une infiltration séreuse au cerveau. La digestion arrêtée achevait de tuer le pauvre baron. Cette mort, qui n'aurait pas eu lieu si, disait madame de Watteville, son mari était resté à Besançon, fut attribuée par elle à la résistance de sa fille qu'elle prit en aversion en se livrant à une douleur et à des regrets évidemment exagérés. Elle appela le baron son cher agneau. Le dernier Watteville fut enterré dans un îlot du lac des Rouxey, où la baronne fit élever un petit monument gothique en marbre blanc, pareil à celui dit d'Héloïse au Père Lachaise. Un mois après cet événement, la baronne et sa fille vivaient à l'hôtel de Rupt dans un sauvage silence. Philomène était en proie à une douleur sérieuse qui ne s'épanchait point au dehors. Elle s'accusait de la mort de son père et soupçonnait un autre malheur, encore plus grand à ses yeux, et bien certainement son ouvrage. Car ni l'avoué Girardet, ni l'abbé de Grancey n'obtenaient de lumière sur le sort d'Albert. Ce silence était effrayant. Dans un paroxysme de repentir, elle éprouva le besoin de révéler au vicaire général les affreuses combinaisons par lesquelles elle avait séparé Francesca d'Albert. Ce fut quelque chose de simple et de formidable. Mademoiselle de Watteville avait supprimé les lettres d'Albert à la duchesse, et celle par laquelle Francesca annonçait à son amant la maladie de son mari en le prévenant qu'elle ne pourrait plus lui répondre pendant le temps qu'elle se consacrerait, comme elle le devait, au moribond. Ainsi, pendant les préoccupations d'Albert relativement aux élections, la duchesse ne lui avait écrit que deux lettres, celle où elle lui apprenait le danger du duc d'Argaiolo, celle où elle lui disait qu'elle était veuve, deux nobles et sublimes lettres que Philomène garda. Après avoir travaillé pendant plusieurs nuits, Philomène était parvenue à imiter parfaitement l'écriture d'Albert. Aux véritables lettres de cet amant fidèle, elle avait substitué trois lettres dont les brouillons communiqués au vieux prêtre le firent frémir. Tant le génie du mal y apparaissait dans toute sa perfection. Philomène, tenant la plume pour Albert, y préparait la duchesse au changement du français faussement infidèle. Philomène avait répondu à la nouvelle de la mort du duc d'Argaiolo par la nouvelle du prochain mariage d'Albert avec elle-même, Philomène. Les deux lettres avaient dû se croiser et s'étaient croisées. L'esprit infernal avec lequel les lettres furent écrites surprit tellement le vicaire général qu'il les relut. À la dernière, Francesca, blessée au cœur par une fille qui voulait tuer l'amour chez sa rivale, avait répondu par ces simples mots « Vous êtes libre. Adieu. » Les crimes purement moraux et qui ne laissent aucune prise à la justice humaine sont les plus infâmes, les plus odieux, dit sévèrement l'abbé de Grancey. Dieu les punit souvent ici-bas. Là gît la raison des épouvantables malheurs qui nous paraissent inexplicables. De tous les crimes secrets, ensevelis dans les mystères de la vie privée, un des plus déshonorants est celui de briser le cachet d'une lettre ou de la lire subrepticement. Toute personne, quelle qu'elle soit, poussée par quelque raison que ce soit, qui se permet cet acte, a fait une tâche ineffaçable à sa probité. Sentez-vous tout ce qu'il y a de touchant, de divin dans l'histoire de ce jeune page, faussement accusé, qui porte une lettre où se trouve l'ordre de le tuer, qui se met en route sans une mauvaise pensée, que la Providence prend alors sous sa protection et qu'elle sauve, miraculeusement, disons-nous. Savez-vous en quoi consiste le miracle? Les vertus ont une auréole aussi puissante que celle de l'enfance innocente. Je vous dis ces choses sans vouloir vous admonester, dit le vieux prêtre à Philomène, avec une profonde tristesse. Hélas, je ne suis pas ici le grand pénitencier. Vous n'êtes pas agenouillé aux pieds de Dieu. Je suis un ami terrifié par l'appréhension de vos châtiments. Qu'est-il devenu, ce pauvre Albert? Ne s'est-il pas donné la mort? Il cachait une violence inouïe sous son calme affecté. Je comprends que le vieux prince Soderini, père de madame la duchesse d'Argaiolo, est venu redemander les lettres et les portraits de sa fille. Voilà le coup de foudre tombé sur la tête d'Albert, qui aura sans doute essayé d'aller se justifier. Mais comment, en 14 mois, n'a-t-il pas donné de ses nouvelles? Oh, si je l'épouse, il sera si heureux. Heureux? Il ne vous aime pas. Vous n'aurez d'ailleurs pas une si grande fortune à lui apporter. Votre mère a la plus profonde aversion pour vous. Vous lui avez fait une sauvage réponse qui l'a blessée et qui vous ruinera. Quoi? Dit Philomène. Quand elle vous a dit hier que l'obéissance était le seul moyen de réparer vos fautes et qu'elle vous a rappelé la nécessité de vous marier en vous parlant d'Amédée, si vous l'aimez tant, épousez-le, ma mère. Lui avez-vous, oui ou non, jeté cette phrase à la tête? Oui, dit Philomène. Eh bien, je la connais, reprit monsieur de Grancey. Dans quelques mois, elle sera comtesse de Soulas. Elle aura certes des enfants, elle donnera 40 000 francs de rente à monsieur de Soulas. En outre, elle lui fera des avantages et réduira votre part dans ses bienfonds. autant qu'elle pourra. Vous serez pauvre pendant toute sa vie, et elle n'a que 38 ans. Vous aurez pour tout bien la terre des Rouxey et le peu de droits que vous laissera la liquidation de la succession de votre père, si toutefois votre mère consent à se départir de ses droits sur les Rouxey. Sous le rapport des intérêts matériels, vous avez déjà bien mal arrangé votre vie. Sous le rapport des sentiments, je la crois bouleversée. Au lieu d'être venue à votre mère... » Philomène fit un sauvage mouvement de tête. « À votre mère, reprit le vicaire général, et à la religion qui vous aurait, au premier mouvement de votre cœur, éclairé, conseillé, guidé, vous avez voulu vous conduire seul, ignorant la vie et n'écoutant que la passion. » Ces paroles si sages épouvantèrent Philomène. « Et que dois-je faire ? » dit-elle après une pause. « Pour réparer vos fautes, il faudrait en connaître l'étendue, » demanda l'abbé. « Eh bien, je vais écrire au seul homme qui puisse avoir des renseignements sur le sort d'Albert, à M. Léopold Hannequin, notaire à Paris, son ami d'enfance. »« N'écrivez plus que pour rendre hommage à la vérité, » répondit le vicaire général. « Confiez-moi les véritables lettres et les fausses, faites-moi vos aveux bien en détail, comme au directeur de votre conscience, en me demandant les moyens d'expier vos fautes et vous en rapportant à moi. Je verrai, car, avant tout, rendez à ce malheureux son innocence devant l'être dont il a fait son Dieu sur cette terre. Même après avoir perdu le bonheur, Albert doit tenir à sa justification. » Philomène promit à l'abbé de Grancey de lui obéir, en espérant que ses démarches auraient peut-être pour résultat de lui ramener Albert. Peu de temps après la confidence de Philomène, un clerc de M. Léopold Hannequin vint à Besançon muni d'une procuration générale d'Albert et se présenta tout d'abord chez M. Girardet pour le prier de vendre la maison appartenant à M. Savaron. L'avoué se chargea de cette affaire par amitié pour l'avocat. Ce clerc vendit le mobilier et avec le produit put payer ce que devait Albert à Girardet, qui lors de l'inexplicable départ lui avait remis 5 000 francs en se chargeant d'ailleurs de ses recouvrements. Quand Girardet demanda ce qu'était devenu ce noble et beau lutteur auquel il s'était intéressé, le clerc répondit que son patron seul le savait et que le notaire avait paru très affligé des choses contenues dans la dernière lettre écrite par M. Albert de Savarus. Fin de la 56e section. Cinquante-septième section des scènes de la vie privée, tome 1. Albert Savarus. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scène de la vie privée, tome 1. Albert Savarus, par Honoré de Balzac. 57e section. En apprenant cette nouvelle, le vicaire général écrivit à Léopold. Voici la réponse du digne notaire. À Monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon, Paris. Hélas, monsieur, il n'est au pouvoir de personne de rendre Albert à la vie du monde. Il y a renoncé. Il est novice à la Grande Chartreuse près Grenoble. Vous savez encore mieux que moi, qui viens de l'apprendre, que tout meurt sur le seuil de ce cloître. En prévoyant ma visite, Albert a mis le général des Chartreux entre tous nos efforts et lui. Je connais assez ce noble cœur pour savoir qu'il est victime d'une trame odieuse et pour nous invisible. Mais tout est consommé. Madame la duchesse d'Argaiolo, maintenant duchesse de Rhétoré, me semble avoir poussé la cruauté bien loin. À Pelgirate, où elle n'était plus quand Albert y courut, elle avait laissé des ordres pour lui faire croire qu'elle habitait Londres. De Londres, Albert alla chercher sa maîtresse à Naples et de Naples à Rome, où elle s'engageait avec le duc de Rhétoré. Quand Albert put rencontrer Madame d'Argaiolo, ce fut à Florence, au moment où elle célébrait son mariage. Notre pauvre ami s'est évanoui dans l'église et n'a jamais pu, même en se trouvant en danger de mort, obtenir une explication de cette femme qui devait avoir je ne sais quoi dans le cœur. Albert a voyagé pendant 7 mois à la recherche d'une sauvage créature qui se faisait un jeu de lui échapper. Il ne savait où ni comment la saisir. J'ai vu notre pauvre ami à son passage à Paris, et si vous l'aviez vu comme moi, vous vous seriez aperçu qu'il ne lui fallait pas dire un mot au sujet de la duchesse, à moins de vouloir provoquer une crise où sa raison eût couru des risques. S'il avait connu son crime, il aurait pu trouver des moyens de justification. Mais, faussement accusé de s'être marié, que faire? Albert est mort, et bien mort pour le monde. Il a voulu le repos, espérons que le profond silence et la prière dans lesquels il s'est jeté feront son bonheur sous une autre forme. Si vous l'avez connu, monsieur, vous devez bien le plaindre et plaindre aussi ses amis, agréés, etc. » Aussitôt cette lettre reçue, le bon vicaire général écrivit au général des Chartreux, et voici quelle fut la réponse d'Albert Savarus. « Le frère Albert à monsieur l'abbé de Grancey, vicaire général du diocèse de Besançon, de la Grande Chartreuse. J'ai reconnu, cher et bien-aimé vicaire général, votre âme tendre et votre cœur encore jeune dans tout ce que vient de me communiquer le révérend père général de notre ordre. Vous avez deviné le seul vœu qui resta dans le dernier repli de mon cœur relativement aux choses du monde, faire rendre justice à mes sentiments par celle qui m'a si maltraité. Mais, en me laissant la liberté d'user de votre offre, le général a voulu savoir si ma vocation était sûre. Il a eu l'insigne bonté de me dire sa pensée en me voyant décidé à demeurer dans un absolu silence à cet égard. Si j'avais cédé à la tentation de réhabiliter l'homme du monde, le religieux était rejeté de ce monastère. La grâce a certainement agi, car pour avoir été court, le combat n'en a pas été moins vif ni moins cruel. N'est-ce pas vous dire assez que je ne saurais rentrer dans le monde? Aussi le pardon que vous me demandez pour l'auteur de tant de maux est-il bien entier et sans une pensée de dépit. Je prierai Dieu qu'il veuille lui pardonner, comme je lui pardonne, de même que je le prierai d'accorder une vie heureuse à madame de Rhétoré. Et, que ce soit la mort ou la main opiniâtre d'une jeune fille acharnée à se faire aimer, que ce soit un de ces coups attribués au hasard, ne faut-il pas toujours obéir à Dieu? Le malheur fait dans certaines âmes un vaste désert où retentit la voix de Dieu. J'ai trop tard connu les rapports entre cette vie et celle qui nous attend, car tout est usé chez moi. Je n'aurais pu servir dans les rangs de l'Église militante. Je me jette pour le reste d'une vie presque éteinte au pied du sanctuaire. Voici la dernière fois que j'écris. Il a fallu que ce fût vous qui m'aimiez et que j'aimais tant pour me faire rompre la loi d'oubli que je me suis imposée en entrant dans la métropole de Saint-Bruno. Vous serez aussi, vous, particulièrement dans les prières de Frère Albert. Novembre 1836. Peut-être tout est-il pour le mieux, se dit l'abbé de Grancey. Quand il eut communiqué cette lettre à Philomène, qui baisa par un mouvement pieux le passage qui contenait sa grâce, il lui dit « Eh bien, maintenant qu'il est perdu pour vous, ne voulez-vous pas vous réconcilier avec votre mère en épousant le comte de Soulas ?»« Il faudrait qu'Albert me l'ordonnât, dit-elle. Vous voyez qu'il est impossible de le consulter. Le général ne le permettrait pas. Si j'allais le voir, on ne voit point les Chartreux. Et d'ailleurs aucune femme, excepté la reine de France, ne peut entrer à la Chartreuse, dit l'abbé. Ainsi rien ne vous dispense plus d'épouser le jeune monsieur de Soulas. » « Je ne veux pas faire le malheur de ma mère, » répondit Philomène. « Satan !» s'écria le vicaire général. Vers la fin de cet hiver, l'excellent abbé de Grancey mourut. Il n'y eut plus entre madame de Watteville et sa fille, cette amie, qui s'interposait entre ces deux caractères de fer. L'événement prévu par le vicaire général eut lieu. Au mois d'août 1837, madame de Watteville épousa monsieur de Soulas à Paris, où elle alla par le conseil de Philomène, qui se montra charmante et bonne pour sa mère. Du moins, madame de Watteville crut à l'amitié de sa fille. Mais Philomène voulait tout bonnement voir Paris pour se donner le plaisir d'une atroce vengeance. Elle ne pensait qu'à venger Savarus en martyrisant sa rivale. On avait émancipé mademoiselle de Watteville, qui d'ailleurs atteignait bientôt à l'âge de 21 ans. Sa mère, pour terminer ses comptes avec elle, lui avait abandonné ses droits sur les Rouxey, et la fille avait donné décharge à sa mère à raison de la succession du baron de Watteville. Philomène avait encouragé sa mère à épouser le comte de Soulas et à l'avantager. « Ayons chacune notre liberté, lui dit-elle. » Madame de Soulas, inquiète des intentions de sa fille, fut surprise de cette noblesse de procédé. Elle fit présent à Philomène de 6 000 francs de rente sur le grand livre, par acquit de conscience. Comme madame la comtesse de Soulas avait 48 000 francs de revenus en terre et qu'elle était incapable de les aliéner dans le but de diminuer la part de Philomène, mademoiselle de Watteville était encore un parti de 1 800 000 francs. Les Rouxey pouvaient produire avec quelques améliorations 20 000 francs de rente, outre les avantages de l'habitation, ses redevances et ses réserves. Aussi Philomène et sa mère, qui prirent bientôt le ton et les modes de Paris, furent-elles facilement introduites dans le grand monde. La clé d'or, ces mots, 1800, 1000 francs, brodés sur le corsage de Philomène, servirent beaucoup plus la comtesse de Soulas que ses prétentions à la de Rupt, ses fiertés mal placées, et même que ses parentés tirées d'un peu loin. Vers le mois de février 1838, Philomène, à qui bien des jeunes gens faisaient une cour assidue, réalisa le projet qui l'amenait à Paris. Elle voulait rencontrer la duchesse de Rhétoré, voir cette merveilleuse femme et la plonger dans d'éternels remords. Aussi, Philomène était-elle d'une recherche et d'une coquetterie étourdissantes afin de se trouver avec la duchesse sur un pied d'égalité. La première rencontre eut lieu dans le bal annuellement donné par les pensionnaires de l'ancienne liste civile depuis 1830. Un jeune homme, poussé par Philomène, dit à la duchesse en la lui montrant « Voilà l'une des jeunes personnes les plus remarquables, une forte tête. Elle a fait jeter dans un cloître, à la grande chartreuse, un homme d'une grande portée, Albert de Savarus, dont l'existence a été brisée par elle. C'est mademoiselle de Watteville, la fameuse héritière de Besançon. » La duchesse pâlit. Philomène échangea vivement avec elle un de ces regards qui, de femme à femme, sont plus mortels que les coups de pistolet d'un duel. Francesca Soderini, qui soupçonna l'innocence d'Albert, sortit aussitôt du bal en quittant brusquement son interlocuteur, incapable de deviner la terrible blessure qu'il venait de faire à la belle duchesse de Rhétoré. Si vous voulez en savoir davantage sur Albert, venez au bal de l'Opéra mardi prochain, en tenant à la main un souci. Ce billet anonyme envoyé par Philomène à la duchesse amena la malheureuse Italienne au bal où Philomène lui remit en main toutes les lettres d'Albert, celles écrites par le vicaire général à Léopold Hannequin, ainsi que la réponse du notaire et même celle où elle avait fait ses aveux à Monsieur de Grancey. « Je ne veux pas être seule à souffrir, car nous avons été tout aussi cruelles l'une que l'autre, » dit-elle à sa rivale. Après avoir savouré la stupéfaction qui se peignit sur le beau visage de la duchesse, Philomène se sauva, ne reparut plus dans le monde et revint avec sa mère à Besançon. Mademoiselle de Watteville, qui vécut seule dans sa terre des Rouxey, montant à cheval, chassant, refusant ses deux ou trois parties par an, venant quatre ou cinq fois par hiver à Besançon, occupée à faire valoir sa terre, passa pour une personne extrêmement originale. Elle est une des célébrités de l'Est. Madame de Soulas a deux enfants, un garçon et une fille. Elle a rajeuni, mais le jeune monsieur de Soulas a considérablement vieilli. « Ma fortune me coûte cher, » disait-il au jeune Chavoncourt. « Pour bien connaître une dévote, il faut malheureusement l'épouser. » Mademoiselle de Watteville se conduit en fille vraiment extraordinaire. On disait d'elle, elle a des lubies. Elle va tous les ans voir les murailles de la grande chartreuse. Peut-être voulait-elle imiter son grand-oncle en franchissant l'enceinte de ce couvent pour y chercher son mari, comme Watteville franchit les murs de son monastère pour recouvrer la liberté. En 1841, elle quitta Besançon, dans l'intention, disait-on, de se marier, mais on ne sait pas encore la véritable cause de ce voyage, d'où elle est revenue dans un état qui lui interdit de jamais reparaître dans le monde. Par un de ces hasards auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait allusion, elle se trouva sur la Loire, dans le bateau à vapeur dont la chaudière fit explosion. Mademoiselle de Watteville fut si cruellement maltraitée qu'elle a perdu le bras et la jambe gauche. Son visage porte d'affreuses cicatrices qui la privent de sa beauté. Sa santé, soumise à des troubles horribles, lui laisse peu de jours sans souffrance. Enfin, elle ne sort plus aujourd'hui de la chartreuse des Rouxey, où elle mène une vie entièrement vouée à des pratiques religieuses. Paris, mai 1842. Fin des scènes de la vie privée, tome 1, par Honoré de Balzac.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouth-watering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.